Mon intervention concerne donc un mémoire que Maurice Delafosse, alors administrateur de deuxième classe des colonies, avait soigneusement rédigé en mars 1908 en vue d'une candidature à l'emploi de secrétaire général de deuxième classe, promotion qui n'obtiendra pas. Maurice Delafosse, savant bien connu pour son œuvre plus tardive, a occupé différents postes dans l'administration coloniale. De novembre 1894 à mai 1919, date de sa mise à la retraite anticipée. Il avait notamment accompli son service des broussards en Côte d'Ivoire, principalement, dans la région du centre chez les Baoulés, dans le nord chez les Sénoufos et les Dulas du cercle des Kong, avant d'occuper des postes de bureau à Bamako et en fin de carrière à Dakar. Le titre complet du document dont je vais présenter des extraits est Mémoire sur les régimes domaniaux et fonciers dans l'Afrique occidentale française, considéré principalement au point de vue de la garantie des droits des indigènes. Bon, ce n'est pas trop lisible, mais vous avez la page de garde d'un document qui est soigneusement rédigé. C'est un long document de 89 pages manuscrites conservées ici aux Annones, accompagné d'un court dossier relatif à sa réception par les ministères des colonies, auquel il était adressé comme un travail complémentaire à une autre mémoire principale qui s'intitulait Mémoire sur l'organisation financière de l'Afrique occidentale française. C'était un point faible dans les compétences de Delafosse, qui était par ailleurs très étendu, l'organisation financière. Donc, de sa volonté, spontanément, il avait ajouté un mémoire qui n'était pas demandé, mais qui était son intérêt fondamental, les mémoires dont je parle. Donc, ces mémoires sous les régimes domaniaux et fonciers est un document officiel, un travail rédigé dans le cadre d'une candidature. Et pourtant, Delafosse y exprime des vues très personnelles, que je définirais prudemment réformistes, ayant à cœur notamment, ce sont ces termes, la garantie des droits des indigènes. L'étude de Delafosse sur les fonciers fut très bien accueillie par Monsieur Vassel de la Direction des affaires politiques et administratives du ministère des colonies, qui le définit, je cite, comme un travail de premier ordre, tant par la clarté de son exposition que par les aperçus ethnographiques et juridiques qu'il contient. Ces éloges ne suffirent toutefois pas à donner une issue favorable à la demande de Delafosse et les mémoires tomba dans l'oubli, restant à ce jour inédit, contrairement à d'autres documents administratifs du même auteur qui étaient souvent publiés assez rapidement. Il est toutefois intéressant de remarquer que les arguments du mémoire avaient retenu l'attention de la revue britannique Journal of African Society, qui en publia des extraits en 1911, notamment la première partie consacrée au système pagan, au pagan system, système païen. Les Britanniques se faisaient d'ailleurs un menu plaisir à mettre l'accent sur les positions de Delafosse, qui étaient favorables à l'association des indigènes et donc plus proches de l'Indian Rule que de la doctrine officielle française de l'époque, que Delafosse contribua à infléchir, mais plus tard, une fois qu'il était surtout sorti des cadres coloniaux au sens strict. Donc, malgré son oubli par la hiérarchie ministérielle, et en partie grâce à cet oubli, ces mémoires revêtent tout de même une valeur documentaire certaine sur les idées de Delafosse au sujet des conceptions de la propriété foncière et donc de l'appropriation coloniale, en dialogue constant avec un droit indigène qu'il s'agissait à la même époque de décrypter et d'adapter au format unifié des coutumiers. C'était à l'époque où systématiquement on recueillait, on publiait les coutumiers. Et Delafosse a participé à ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les coutumiers à Agny notamment. Nous avons là donc un écrit certainement mineur dans la vaste production de Delafosse, mais tout à fait emblématique de ses positions théoriques sur le devoir de la colonisation. Il s'agira donc ici de proposer une lecture critique de ces rapports oubliés, consacrés à un sujet qui, par ailleurs, a de première importance dans la gouvernance coloniale et rédigé par l'une des figures les plus marquantes par son application au travail et originale par sa liberté d'esprit de l'administration coloniale au début du XXe siècle en AOF. Donc, dans les possibilités de rendre compte de ce long travail, qui est difficile à résumer, parce que ce sont des commentaires du droit coutumier et des commentaires de la législation coloniale, Donc je vais me concentrer sur la première partie de ce travail, celle qui fait appel aux connaissances ethnographiques directes de l'auteur, notamment dans la Côte d'Ivoire. De ces mémoires, il ressort très nettement l'attention que de la Fosse portait aux coutumes et aux milieux culturels des populations soumises à la tutelle coloniale, et donc à la sienne, en tant qu'administrateur, je dirais, des bases. L'intention réformatrice y apparaît immédiatement, ne craignant pas de la Fosse, alors simple administrateur de colonies de deuxième classe, de critiquer et de proposer des modifications à la législation en vigueur. Il y a une partie qui est très technique. De la Fosse réécrit la législation, donc article par article. Les observations préliminaires, c'est son titre, donnent le ton à l'ensemble du texte et contiennent déjà tous les éléments fondamentaux de l'étude qui va suivre. Nous ne voulons en aucune façon spolier nos sujets ou protéger indigènes au bénéfice des citoyens de la métropole, déclare d'emblée de la Fosse. Il s'ensuit que la meilleure des manières d'apporter aux civilisations autochtones un progrès positif est non seulement de les respecter, mais aussi, je cite, de consolider les droits des indigènes résultant de l'exercice traditionnel de leurs coutumes. Donc la priorité, c'était au respect des coutumes. L'accroissement simultané de la prospérité des colonisateurs et des colonisés doit conduire à une politique d'association, selon les termes de De La Fosse, selon laquelle, écrit toujours De La Fosse, je cite, « l'Européen doit demeurer l'Européen et l'Africain doit demeurer l'Africain, chacun gardant intact ses droits particuliers et son génie propre. Pour atteindre cet objectif, il s'agit donc de rechercher et définir les idées des indigènes relatives à la propriété du sol et à la constitution du domaine public. Il faut donc concilier l'initiative européenne en vue de la mise en valeur avec la concession aux indigènes du libre exercice de leurs droits. Dans ces prémices, on trouve déjà exprimé la conception que De La Fosse avait de la colonisation, de ses tâches et de ses devoirs vis-à-vis des indigènes qu'elle devait associer à son entreprise, tout en respectant les coutumes lorsqu'elle n'allait pas à l'encontre des principes d'humanité. En particulier, tout en défendant les droits de l'État français sur ses colonies, De La Fosse montrait une certaine méfiance envers les colonats et ses agissements préjudiciables aux indigènes que l'on devait défendre et protéger contre toute spoliation. Plus loin, De La Fosse souligne la connexité, c'est son terme, que les différentes coutumes indigènes relatives à la propriété foncière ont entre elles, plus importantes qu'avec les droits français. Cette remarque lui sert aussi de mise en garde contre la tentation de donner aux termes techniques le sens absolu que leur attribue notre code civil. Manière, à mon avis, de redire son approche résolument culturaliste qui refuse d'établir des correspondances trop directes entre les langages de la coutume et celui du droit français. On retrouve ici une autre idée forte de De La Fosse qu'il développera plus loin dans ses nombreuses publications, celle de l'unité d'ensemble de la civilisation africaine, ce qu'il appelait l'âme nègre, un univers varié, certes, mais que l'on peut reconduire à un fond commun, distinct et séparé de la civilisation européenne conquérante et de l'islamisme dans lequel il ne peut pas s'effondrer sans perdre de son authenticité, ce qui tenait beaucoup à cœur De La Fosse. Dans les droits fonciers, la civilisation africaine s'exprime de manière particulièrement homogène, certainement plus que dans d'autres domaines tels que les mariages ou les droits des familles ou la succession. Venant au cœur du sujet, De La Fosse écrit que les peuples de la grande forêt ouest africaine, par la nature même du pays qu'ils habitent et qui les a préservés à peu près complètement jusqu'ici des influences étrangères, semblent être ceux de toute l'Afrique occidentale qui ont conservé les plus purement leurs coutumes ancestrales. Celles-ci portent les cachets propres au génie de la race nègre. Les lois sont à peu près les mêmes partout, elles paraissent presque immuables et les indigènes y sont profondément attachés. De la Fosse reprend ici à son compte un cliché très répandu sur la nature hostile de la forêt qui déteint sur les caractères enfermés de ses habitants, mais en même temps il ne cache pas sa sympathie envers ces peuples si attachés à leurs coutumes ancestrales. Ces peuples de la forêt distinguent la propriété presque individuelle des sols cultivés, revenant en fait au roi ou au chef des tribus, de la propriété collective des sols abandonnés, sorte de domaine public appartenant à ce que nous appellerions l'État. C'est un point très important qu'on retrouvera. De la Fosse décrit ensuite un enchevêtrement des droits, conséquence de la répartition que les chefs des tribus font au bénéfice des familles, des chefs des familles, sans toutefois perdre les contrôles, les droits éminents sur la terre, qui n'est pas aliénable par ceux qui en ont l'usufruit. Même les terres vacantes ne sont pas sans maître, puisqu'elles appartiennent au roi ou au chef qui exerce un réel droit de propriété au nom et pour les comptes de ce que De la Fosse appelle l'État indigène. Le deuxième chapitre du mémoire est consacré au peuple soudanais, plus avancé au niveau politique, mais dont le droit à la propriété du sol ne diffère que légèrement de celui des habitants de la forêt. Dans toute l'extension des savanes soudanaises se retrouve en effet un même régime des propriétés foncières, distinguant les sols et ses produits spontanés, propriété du chef, de tout ce qui est le produit du travail de l'homme, qui est en revanche la propriété stricte de l'individu ou de la collectivité auteur du travail. En résumé, conclut De la Fosse, c'est l'État indigène qui est seul propriétaire du territoire entier, les familles et les individus ne pouvant avoir sur les sols que des droits de jouissance usufructuaire. Ces caractéristiques rapprochent les peuples de la savane de ceux de la forêt, sauf que pour les premiers, l'aliénation absolue et irrévocable du sol au profit d'un étranger est moins rigidement exclue que pour les premiers. De la Fosse sont surtout de renouveler son idée de l'unité des fonds des civilisations noires et des coutumes traditionnelles indigènes. Une unité que la colonisation française pouvait cimenter, affermissant son domaine sur des vastes étendues, tout en préservant les droits coutumiers indigènes, dont la variété était due davantage à des conditions naturelles différentes qu'à une réelle diversité culturelle. De la Fosse considère aussi que le rapport à la terre, élément réellement ancestral et socle dur de la civilisation africaine, est moins facilement perméable que d'autres domaines de la vie sociale, comme les droits de la famille, aux innovations introduites de l'extérieur, que ce soit par l'islamisation ou par la colonisation française. Dans ses considérations d'ensemble, De la Fosse insiste en outre sur la vigueur avec laquelle le nègre ouest-africain est attaché à ses droits fonciers. La propriété foncière dans l'Afrique occidentale a été représentée avec raison comme un culte. De plus, le système indigène de propriété foncière est rapproché par De la Fosse des conceptions démocratiques les plus avancées de l'Europe occidentale, selon ses termes. Les Africains sont donc tout à fait capables d'élaborer un code de loi non écrite et ne vivent certainement pas suivant un instinct naturel. Il s'ensuit la conviction que les succès commerciaux, c'est toujours De la Fosse qui écrit, les succès commerciaux et politiques des puissances européennes dans leurs possessions ouest-africaines dépendent pour être réalisés de la reconnaissance de la loi indigène relative à la propriété. Donc des limites assez strictes au droit à la colonisation. Cette remarque est très importante car elle contient une idée centrale dans la conception que De la Fosse avait et proposait dans son mémoire d'une colonisation respectueuse de certaines coutumes indigènes. Il semble ici songer à une colonisation consensuelle, apaisée, et proche, de manière certes paternaliste autoritaire, des populations placées sous sa tutelle, qui en définitive apparaissent moins éloignées que ce qu'on pouvait penser sans les connaître de plus près. L'idée forte qui se dégage finalement de l'ensemble des droits fonciers analysés c'est qu'il n'y a pas, je cite de la Fosse toujours, il n'y a pas un pouce de terrain sans maître, pas un sur lequel un propriétaire et souvent un usufruitier ne puisse faire valoir des droits. Là-dessus, peuples de la forêt, soudanais et nomades sont tous d'accord. Un droit indigène, insiste de la Fosse, est donc illégal de la part des autorités françaises de considérer comme domaine de l'État français et d'accorder à des sociétés ou des particuliers sous forme de concession des parcelles quelconques des terrains. Il écrit ça dans un rapport officiel pour avoir une promotion déclarant illégal de la part de l'autorité française, considérée comme domaine de l'État, les parcelles des terrains. Pas de res nullius donc, rien qui puisse autoriser une colonisation intrusive et la spoliation des droits des administrés. Toute concession sans accord de la population serait une violation des droits des indigènes, droit qu'il faut d'abord reconnaître en tant que tel, c'est à quoi de la Fosse s'engage tout le long de son mémoire. La proposition de la Fosse est claire. Je cite, il s'agit d'associer les Africains, il s'agit d'associer les Africains pour la meilleure réussite d'une colonisation visant à la mise en valeur économique dans l'intérêt conjoint de toutes les parties. Là, en revanche, je cite, l'intervention française à la matière doit donc non pas substituer l'État français à l'ensemble des États indigènes, mais adopter à la modifiant, s'il y a lieu, la conception européenne du domaine public. Il faut adopter la modifiant, s'il y a lieu, la conception européenne du domaine public pour qu'elle soit plus proche, plus adhérente du droit coutumier. En deuxième lieu, il s'agira de constituer peu à peu une sorte de cadastre des biens fonciers et du domaine public, de manière à faire établir les droits de propriété ou d'usufruit, les mettant à l'abri de toute contestation et en introduisant, les cas échéants, la possibilité d'établir des contrats valables et reposant sur des bases certaines. Donc, un cadastre avec des contrats écrits. En troisième lieu, il devra être possible, en respectant les coutumes locales, de faciliter, je cite, à des particuliers ou des sociétés l'acquisition temporaire, par baux à long terme, renouvelable, du droit de jouissance et d'exploitation des terres, soit urbaines, soit rurales, arables, forestières ou minières. On pourrait aussi imaginer, c'est le terme de la Fosse, la possibilité faite aux propriétaires fonciers, individuels ou collectivités, d'aliéner à temps ou même, en certains cas, à titre définitif, des terres urbaines ou rurales. Enfin, toujours de la Fosse, il est loisible de concevoir un plan grâce auquel l'État français pourrait, par traité ou contrat, passer avec les chefs aux collectivités indigènes propriétaires foncières, acquérir la cession gracieuse ou onéreuse des terres actuellement vacantes dont l'ensemble constituera un véritable et légal domaine de l'État. Il fallait demander l'autorisation pour acquérir des terres. On perçoit dans cette dernière proposition une hésitation de la Fosse au sujet du statut juridique des terres vacantes. Ou alors il s'agit peut-être d'une concession nécessaire aux visées de la colonisation qui serait trop limitée par son insistance sur le respect dû aux coutumes indigènes en matière de propriété foncière. En ce qui concerne les domaines de l'État français, de la Fosse en conteste la pertinence même, ayant déjà nié l'existence des terres sans maître. Je cite, « Il nous paraît impossible, dans les cas les plus fréquents du propriétaire réel, se trouvant être l'État indigène ou son chef, de substituer l'État français qui est un à cet État indigène éminemment multiple et multiforme. Une pareille thèse serait insoutenable en droit comme en fait. Il serait tout au plus possible, compte tenu de la Fosse, de faire de l'État les contrôleurs des terres possédées sous la forme demi-particulière et demi-collective, sans qu'il ne se considère les propriétaires de ces terres, même vacantes. L'État serait, dans une certaine mesure, le tuteur bienveillant, c'est de la Fosse qui écrit, des propriétaires indigènes, chefs ou collectivités, sans pouvoir se substituer à eux, pour administrer leurs biens et en disposer sans leur agrément. Encore une fois, ces tuteurs bienveillants n'existent que dans le souhait de notre administrateur, qui, tout en étant un homme de terrain expérimenté et pragmatique, semble ici vraiment pêcher par un angélisme déplacé compte tenu de l'état réel des rapports entre puissance coloniale et indigène en 1908. 1908, c'était le début de l'administration Angoulevent en Côte d'Ivoire, et c'est le début de la pacification. Donc, on était loin de ces climats consensuels. De la Fosse fait la part belle à la colonisation qui garantirait les droits fonciers établis par les coutumes tout en imposant des mesures administratives de plus en plus strictes, visant la mise au travail des indigènes, la mise en valeur des ressources des colonies. Les pactes d'association envisagés, fondés sur la sauvegarde des prérogatives respectives des populations africaines et de la colonisation, demeurent un objectif lointain de la situation réelle, une vue de l'esprit à laquelle les mêmes administrateurs semblent croire à peine. La troisième et dernière partie du mémoire est consacrée aux modifications qui pourraient être apportées au régime actuel concernant les domaines de la propriété foncière. Le but déclaré est celui d'indiquer par quelles modifications l'on pourrait amener les textes organiques à se conformer plus étroitement aux principes découlants de la coutume indigène. Donc, à nouveau, il faut adapter les textes organiques à la coutume indigène, tout en permettant, c'est toujours de la force, de favoriser l'évolution normale de cette coutume sur une situation plus adaptée aux besoins des populations autochtones et à ceux de l'activité européenne. Toujours l'objectif de concilier. Cette phrase renferme de manière emblématique la conception que de la Fosse avait de la colonisation. Une association étroite des colonisateurs et des colonisés, née d'une rencontre harmonieuse fondée sur la convergence des intérêts respectifs dans un respect mutuel, mais dont le guide est assuré par la puissance civilisatrice et protectrice. L'attitude de la Fosse est globalement paternaliste, ce qui correspond à sa manière humaniste de concevoir la colonisation. Son intention est de protéger les indigènes, les mettant sous la tutelle d'un État éclairé, capable de les défendre des visées d'appropriation des colons et des compagnies privées. Il n'empêche que cette manière de voir les choses demeure tout aussi aliénante que d'autres pratiques coloniales, la brutalité parfois en moins. Toutefois, lorsqu'il s'agit du domaine de l'État, la spoliation devient inévitable, à moins de renoncer complètement à tout projet colonial. Dans son savant exercice comparatif, De La Fosse se heurte à un écueil majeur, celui de faire entrer des pratiques coutumières par nature instables et toujours négociables dans les carcans rigides d'un droit civil écrit, issu d'autres pratiques et d'autres traditions intellectuelles européennes et françaises en particulier. Son regard est normatif et, malgré l'effort de documentation et d'analyse ethnographique rapprochée, ne parvient pas toujours à plier une matière magmatique comme les droits coutumés au cadre rigide du droit positif. Et cela d'autant plus que son approche se voudrait respectueuse des coutumes locales dont il essaie de donner compte sans les transformer. Pour revenir à la pratique administrative qui était la sienne, il ne faut pas oublier que dans son action coloniale, que l'on pourrait définir des bases, De La Fosse avait rapidement bien compris qu'il fallait préserver les sociétés africaines, ou du moins l'idée qu'il s'en faisait sur le terrain, et qu'il ne fallait surtout pas en détruire les fondements économiques et sociaux, y compris l'esclavage domestique, si l'on voulait rendre efficace une politique coloniale qui, de toute manière, manquait des moyens d'affirmer ses principes d'assimilation. De La Fosse a toujours été très pragmatique, sauf dans ce genre d'exercice, et il était notamment très tolérant vis-à-vis des restes d'esclavage domestique qu'il rebaptisait une captivité des cases très tolérable. Les défis réformistes que De La Fosse semblait lancer dans son mémoire étaient doubles mais peu réalistes. Renforcer les droits fonciers des indigènes établis par leurs coutumes, traduisant celles-ci en droits positifs. Et de l'autre côté, concilier les intérêts respectifs de la colonisation, mais pas du colonat, et des indigènes. Dans les deux cas, l'État colonial, assumant une posture protectrice et bienveillante, devait se porter garant, sans que son rôle simultané d'acteur et d'arbitre ne constitue un empêchement. Au final, De La Fosse lui-même ne semblait pas trop croire à son projet de révision du droit foncier colonial, conçu pour une élite instruite, les évolués, qui n'a jamais rencontré sa sympathie, ni spécialement retenu son intérêt, et qui surtout faisait encore largement défaut en 1908. Il en ressort une espèce de mise en scène utopique et décalée d'une colonisation apaisée, largement fantasmée, qui répugnerait à toute spoliation et serait fondée sur des intérêts partagés, précisément fixés et protégés par la loi. Donc, par la rédaction de son mémoire, exercice au demeurant sans conséquence, dans tous les sens du terme, De La Fosse essayait, en creux et avec prudence, de se démarquer des pures brutalités de la spoliation, issue inévitable car placée au cœur de tout dispositif colonial. Dès l'intérieur de la machine bureaucratique coloniale, et en profitant de ses failles, il parvenait à créer un pur produit du régime administratif qui répondait à toutes les prérogatives et exigences des surfaces. Il parvenait aussi à produire une comparaison neutre et lisse qui correspondait aux attentes et n'engageait à rien, mais qui, plus en profondeur, constituait une critique de la colonisation comme inévitable spoliation. En tant que partisan d'une politique indigène et hostile au projet d'assimilation, Maurice de La Fosse sera écouté qu'une fois sorti des cadres de l'administration coloniale, dans les années 20. Toutefois, il est important de souligner comment, dans l'exercice de ses fonctions administratives, et non pas seulement en tant que savant, dès 1908, ses positions critiques étaient explicites et conséquentes, quoique sans influence réelle. En conclusion, la colonisation souhaitée par De La Fosse était nécessairement accompagnée d'une dépossession des souverainetés politiques et territoriales, mais sans spoliation foncière. Donc sans colons européens censés s'approprier des terres vacantes. Celles-ci n'existaient pas d'ailleurs. C'est le cœur de son argumentation en faveur de la protection des intérêts des indigènes. Les producteurs africains devaient être laissés libres dans leur autonomie foncière et dans leur initiative économique. L'État français devait seulement se superposer à l'État indigène, selon son expression récurrente, les seconder et l'accompagner. Rien n'est dit toutefois de la mise en valeur des colonies basées sur une autre forme d'expoliation, non pas foncière, mais concentrée sur l'appropriation des produits de travail imposés aux indigènes. J'ai dépassé un peu le temps.
Nous sommes tout à fait. Merci beaucoup.
J'ai fait un peu. Merci.